Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall.
Saint Benoît vient donc de surmonter une grave tentation de la chair, comme le commente Saint Grégoire le Grand. Et donc, ayant surmonté par un acte d'héroïque en se jetant dans les ronces et les épines, et comme le dit Saint Grégoire, Benoît fut bientôt rappelé à lui-même par la grâce d'en haut. Le tentateur essaie de nous séparer de Dieu et pour commencer de nous le faire perdre de vue par la séduction même de ce qu'il nous propose. La grâce de Dieu reçue par Benoît l'empêche de passer de la délectation au consentement. David, comme l'enfant prodigue, a succombé à la tentation. Et dans le chapitre suivant des dialogues, Saint Grégoire note que Benoît, revenu dans sa solitude après l'épisode de Vico Varro, puisque cet épisode, les moines avaient tenté d'empoisonner leur père abbé. Donc, Saint Benoît note qu'il vécut seul avec lui-même sous le regard de celui qui voit tout du haut du ciel. Formule voisine de celle de Saint Benoît au chapitre 7e de ta règle, et qui le dit de la même manière à peu près. Et Saint Grégoire s'explique avec beaucoup de finesse, comme toujours. Toutes les fois que de fortes préoccupations nous entraînent hors de nous, nous vivons, mais nous ne sommes pas avec nous-mêmes. Nous ne voyons plus et nous nous répandons dans les choses extérieures. Pouvons-nous dire qu'il était avec lui-même, le prodigue, qui s'en alla dans une contrée lointaine et dissipa la part d'héritage qu'il avait reçue? Il se mit au service d'un habitant du pays et il gardait les pourceaux qu'il voyait manger une nourriture grossière, sans pouvoir s'en rassasier lui-même. Il se mit à penser au bien qu'il avait perdu, et il est écrit de lui, revenant à lui-même, il dit « Combien y a-t-il dans la maison de mon père de mercenaires qui ont du pain en abondance ?» S'il avait été avec lui-même, comment y serait-il revenu ? Ainsi, j'ai pu dire que ce saint homme habitait avec lui-même, parce qu'il veillait toujours sur son âme, qu'il se tenait toujours en présence de son Créateur, qu'il s'examinait sans cesse et qu'il ne laissait jamais le regard de son intelligence s'égarer au dehors. Le prodigue, donc, après son péché, revint à lui-même. Il était parti, battre la campagne. Benoît, avant de pécher, fut rappelé à lui-même. Donc, la formule est importante. Et à l'instant où nous sommes, et donc dans cette histoire de David, David est pleinement dans son péché. Il ne semble pas en avoir conscience, comme anesthésié par sa faute. Il faut que Dieu intervienne. Il va le faire avec une infinie délicatesse. Il lui envoie son prophète Nathan, le même qui lui avait annoncé les grands desseins de Dieu sur lui et sur sa maison. À la manière orientale, et pour ne pas prendre David de front, Nathan raconta l'épisode d'histoire suivante. Il y avait deux hommes dans la même ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait petit et gros bétail en très grande abondance. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une brebis, une seule petite qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait avec lui et ses enfants. Mangeant son pain, buvant dans sa coupe, dormant dans son sein, c'était comme sa fille. Un hôte se présenta chez l'homme riche, qui épargna de prendre sur son petit ou gros bétail de quoi servir aux voyageurs arrivés chez lui. Il vola la brebis de l'homme pauvre et la prêta pour son visiteur. Tout est tendresse dans cet apologue. Bien fait pour toucher le cœur de David et le ramener à sa bonté foncière. Les termes d'affection qui se succèdent et s'appuient au verset s'appuient au verset 3, sont tellement délicats qu'il ne faut pas les commenter. Ils se suffisent à eux-mêmes avec l'admirable finale. C'était comme sa fille, la brebis. Nous pouvons seulement nous souvenir de la première page de La Chèvre de M. Séguin d'Alphonse Daudet. M. Séguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'étaient, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. L'herbe est toujours plus verte à côté. Le brave M. Séguin, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné. Il disait « C'est fini, les chèvres s'ennuient chez moi, je n'en garderai pas une. » Cependant, il ne se découragea pas, et après avoir perdu 6 chèvres de la même manière, il en acheta une 7e. Seulement cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune pour qu'elle s'habitue mieux à demeurer chez lui. « Ah, Gringoire, qu'elle était jolie, la petite chèvre de M. Séguin, qu'elle était belle avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses abonnois et luisants, ses ornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. C'était presque aussi charmant que le cabri d'Esmeralda, tu te rappelles, Gringoire. Et puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle, un amour de petite chèvre. »